Nous avons le plaisir d'écouter en premier Florent Serina, qui est historien des sciences du psychisme. Je crois que c'est la définition qu'il propose et qui a conduit des recherches extrêmement approfondies sur plusieurs grands psychologues, Pierre Janet entre autres, mais surtout Carl Gustav Jung. Et récemment, enfin parmi ses publications récemment, il y a Carl Gustav Jung en France, Rencontre, passion et découverte, qui est une somme, une mine concernant tous les, non seulement les contacts que Jung a pu avoir en France et réciproquement, mais les échos que la pensée de Jung a pu avoir. Et donc parmi ces échos, il y a Henri Corbin. Et je remercie Florent Serina d'être venu de Lausanne, justement, pour nous parler de ce sujet.
Bonjour à chacune et à chacun. Merci beaucoup pour votre invitation. Je remercie en effet l'association des amis d'Henri et Stella Corbin de cette opportunité de vous présenter une petite partie de mes recherches, en effet, qui a porté sur... la réception et l'étude, la réception et les appropriations dont Carl Gustav Jung a fait l'objet en France, dans l'Europe francophone, plus largement. Je remercie particulièrement Pierre Laurie qui m'a adressé cette invitation. Je remercie également la présidente. Je dois dire en propos liminaire que cette présentation n'est pas celle d'un historien des religions et donc pas celle d'un spécialiste d'Henri Corbin. Je me définis en effet comme un chercheur en histoire sociale, culturelle et politique des sciences et des savoirs sur le psychisme, qui a consacré sa thèse de doctorat donc à l'histoire de la réception de l'œuvre de Jung en France et aux appropriations les plus diverses dont la psychologie analytique a fait l'objet, et ce dans des domaines aussi variés que la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse bien sûr, mais aussi l'anthropologie, la théologie, la philosophie, la littérature, ou bien encore l'histoire. Et cette thèse a été soutenue à l'Université de Lausanne en 2017, et elle a fait l'objet d'une publication aux éditions des Belles Lettres. Et les pages qui concernent Henri Corbin sont insérées dans un chapitre plus large qui est consacré au rapport que les orientalistes français ont entretenu avec Jung, et en particulier René Guénon et Louis Massignon. Et au fil de mes recherches, je me suis rendu toutefois compte à quel point Corbin tenait une place originale dans cette histoire. Et même si je poursuis aujourd'hui des recherches sur l'histoire de la psychologie de l'inconscient, c'est pas tellement les interactions avec l'histoire des religions qui m'intéresse actuellement. Je le précise ça quand même. Et je redis aussi que, hormis sur quelques points, ma présentation reprend dans leurs grandes lignes les quelques pages que j'ai consacrées à Corbin dans mon ouvrage. Sur le plan méthodologique, je ne vous propose pas une lecture intertextuelle ou comparée de l'œuvre de Jung et de Corbin, qui consisterait peut-être parfois de façon décontextualisée à mettre en lumière ce que ces deux penseurs auraient en commun, avec pour objectif de révéler ou d'atteindre une sorte de ciel des idées, plutôt ce que je pourrais appeler un enfer des idées. Ma démarche se veut beaucoup plus modeste, bien plus terre-à-terre, pour pas dire même au ras du sol. Je propose plutôt de suivre, pas à pas, les échanges que les deux hommes ont entretenus de leur vivant, en me basant pour cela autant sur un corpus d'archives qui mêle sources imprimées et sources primaires, donc des archives institutionnelles, correspondances, bibliothèques personnelles, notes manuscrites, agendas, etc. Pour moi, l'usage abondant de sources primaires me paraît fondamental, ce qui donne accès à l'espace humain, qui peut être caché ou implicite. En tout cas, cet espace que la seule analyse des sources imprimées ne permet pas d'entrevoir. D'où mon souci constant de vouloir articuler ces deux types de sources. Et donc, en plus de leurs publications respectives, ma recherche s'est donc nourrie des archives de Jung conservées à Zurich, des archives du Cercle Eranos à Ascona, des archives Corbin naguère à la bibliothèque Sainte-Barbe et aujourd'hui au campus Condorcet à Aubervilliers, ainsi que de quelques autres fonds. Et je dois dire que mes recherches ont certainement été facilitées par le classement que venait d'effectuer à l'époque Daniel Proulx. Et je profite de cette présentation pour lui adresser mes remerciements et aussi pour vous rappeler la publication de cet ouvrage comportant donc quelques inédits d'Henri Corbin sur Jung, paru il y a quelques années. Et aussi pour dire, et je pense que Daniel partage quelque peu, peut-être ce regret avec moi, qu'il n'y ait pas eu d'édition de critique, mais c'est un très bel ouvrage et pour moi il est important de rappeler sa publication. Ma présentation se fera en quatre temps principaux. Un rappel d'abord sur Jung et Ranos, et je parlerai aussi des rapports de Louis Massignon avec le cercle et Ranos. Et je tiens à souligner que c'est l'histoire d'ailleurs de Massignon et Ranos a plutôt été occultée jusqu'à présent dans l'historiographie. Je parlerai ensuite de les rencontres entre Corbin et Jung, qui sont particulièrement riches sur le plan émotionnel. Et peut-être n'ai-je pas assez souligné cet aspect dans ma publication. J'insisterai ensuite sur les échanges entre les deux hommes, sur leur convergence, sur la façon dont Corbin en fait a compris Jung, a appréhendé la manière compris et appréhendé la manière dont Jung avait été compris en France, et c'est un point assez important, me semble-t-il. Et puis je terminerai en m'intéressant à la façon dont Corbin s'est appliqué après la mort de Jung à se démarquer aussi de la psychologie analytique, au fait qu'il ait pointé ce qu'il considérait comme ses insuffisances sur ce que j'ai appelé au fond les impéréties métaphysiques de la psychologie analytique. Donc autant je pars du principe que l'ensemble de l'auditoire connaît bien Corbin et que je peux faire l'économie d'une présentation détaillée de qui il était, mais peut-être certains ou certaines d'entre vous ne connaissent pas Jung, quand bien même son nom est connu. Hein. Mais je crois qu'il est vraiment important de le présenter en le dépouillant de la lecture freudo-centrée dont il a fait l'objet pendant longtemps et qui brouille, je crois, les représentations qu'on s'en est fait. L'homme et l'œuvre ont rarement laissé indifférent et je pense n'ont cessé depuis plus d'un siècle de faire l'objet d'opprobre et de passion. Il est né en Suisse, il est fils d'un pasteur zwinglien, et il acquiert très tôt une reconnaissance internationale, grâce notamment à ses travaux menés sous la direction d'Eugen Bleuler à la clinique psychiatrique universitaire de Zurich, avant de devenir le collaborateur de Sigmund Freud. L'œuvre de Jung, au fond, est traversée par une tension. Alors certains pensent que cette tension est contradictoire, elle est certes paradoxale, moi je pense que elle fonde une partie de son originalité, c'est que dès le début, c'est quelqu'un qui est profondément intéressé par des sujets hétérodoxes, notamment les sciences occultes, mais également par la volonté de faire science. C'est quelqu'un qui va avoir une place très importante au sein du mouvement psychanalytique, puisqu'il va être l'architecte du mouvement psychanalytique international, le tout premier. Mais il va rompre avec Freud au début de la Première Guerre mondiale et avec ses méthodes, va présenter ses conceptions comme étant la psychologie analytique avant de délaisser cette dénomination au profit de celle de psychologie complexe, qui est assez peu connue en France, qui n'est pas reprise, afin de mieux souligner son approche des moments créatifs de la vie psychique. Sa rupture avec Freud coïncide avec l'émergence d'une crise personnelle, qui est à la fois profonde et créative, qu'il appellera sa confrontation avec l'inconscient, et dont on peut aujourd'hui suivre le cours dans ses carnets noirs et le livre rouge, qui sont comme le récit des tâtonnements et questionnement existentiel d'un homme à la recherche de solutions qui puissent redonner un sens à sa vie, et où s'élabore une cosmologie personnelle contenant en ses germes tout un pan de ses travaux futurs. Donc, Jung renonce au divan, à la méthode des associations libres, privilégie le face-à-face, l'interprétation des rêves, la méthode dite de l'imagination active, et le processus d'individuation. Ce processus, il est entendu comme un processus d'élargissement de la sphère du conscient et de la vie psychologique consciente, passant par une confrontation avec ce qu'il appelle les archétypes de l'inconscient collectif. La méthode de l'imagination active consiste-t-elle à donner une forme sensible, par différents moyens d'expression, aux fantasmes et images de l'inconscient et de les suivre dans leur développement spontané pour contribuer à un élargissement de la conscience via l'intégration de contenus inconscients. Ce processus d'individuation apparaît comme un processus de transformation intérieure, propre à chacun, par lequel un être devient, je cite, un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité, et qui donnerait accès à cet individu par un jeu de conjonction, un jeu assez héraclitéen, un jeu de conjonction des contraires à ce qu'il appelle l'unus mundus, un monde un, et qui se manifeste essentiellement par l'émergence de ce qu'il a appelé des synchronicités ou des coïncidences signifiantes. Je signale juste cet extrait aussi, hein, de, qu'on a longtemps considéré comme étant son autobiographie, pour dire que, voilà, que c'est quand même un psychiatre qui nous a dit, qui a révélé, tout au moins à la fin de sa vie, qu'en tant que psychiatre, ce fut une ironie du sort qu'il m'ait fallu, en tant que psychiatre, au cours de mon expérience, rencontrer pour ainsi dire pas à pas ce matériel psychique qui fournit les pierres à partir desquelles se construit une psychose que l'on retrouve aussi par conséquent dans les asiles de fous. À la fin des années 20, sa collaboration avec le sinologue Richard Wilhelm l'incite à approfondir son étude des spiritualités orientales, puis à entreprendre des recherches sur l'iconographie et la littérature alchimique. Il trouve dans ces développements de l'histoire de notre culture, qui sont alors fort mal connus, une confirmation de son expérience personnelle, une sorte de parenté avec les grands concepts de sa psychologie. Il va refermer son livre rouge, on est là à la fin des années 20, et va se consacrer à une étude comparée des processus d'individuation, en se livrant d'une part à de vastes recherches historiques et en multipliant d'autre part les échanges avec de nombreux historiens, des religions, philosophes, orientalistes, théologiens, notamment au sein du cercle Eranos. Il s'agit, pour ne citer que ceux qui ont été le plus souvent invités, tout au moins au début du cercle, Bonaiuti, Heinrich Zimmer, Roussel, Davis, Eiler, Bernoulli, Louis Massignon, je vais en parler un petit peu, et puis après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, ce sera notamment Eliade, Gershom Scholem et Henri Corbin. Je signale aussi que Jung, en 1930, est nommé vice-président de l'Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie, la Société médicale générale de psychothérapie, avant d'occuper sa présidence en 1933. Il initie alors un projet visant à fonder une psychologie générale sur la base d'une recherche des points communs entre l'ensemble des écoles de psychothérapie. Est né entre lui et l'Allemagne de Hitler un rapport de curiosité, d'intérêt puis de compromission. S'ensuit une controverse appelée à durer après la publication des Crises équivoques et de ses fonctions au sein de cette association professionnelle basée en Allemagne et placée à partir de 1936 sous le contrôle du Troisième Reich et dont il ne démissionnera qu'en 1940. Il est accusé d'antisémitisme, de sympathie pour l'idéologie nationale socialiste et il verra sa réputation durablement entachée, n'arrivant même jamais de son vivant à se laver totalement de tout soupçon. Ses écrits plus tardifs élargissent ses recherches et l'élaboration théorique. Sa fréquentation soutenue de l'alchimie l'engage à entreprendre une analyse critique du christianisme. Il va notamment postuler une quaternité, en ajoutant comme un troisième pôle à la Trinité, qui est tantôt en fait le mâle ou tantôt un élément féminin. Et il va approfondir aussi la question de la réalisation du soi, hein, qui est comme le moteur et l'organisateur et but du processus d'individuation, qui n'est descriptible qu'en termes d'antinomie et constituant une unification virtuelle de tous les opposés. Au début des années 30, sous l'impulsion du théologien Rudolf Otto et de Jung, une mécène suisse d'origine néerlandaise, Olga Frobe-Kapten, prend l'initiative d'organiser des rencontres annuelles dont le but premier est, je cite, « l'étude des images et des forces archétypales dans le rapport avec l'individu ». Le cercle est baptisé Eranos, en référence au terme grec ancien qui désigne un banquet dont le contenu, nourriture et propos dépendaient de ce que pouvaient apporter les participants. Et ces rencontres se tiennent dans une villa, la Casa Gabriella, à proximité d'Ascona dans le Tessin, sur les rives du lac Majeur. Ces rencontres donc rassemblent des chercheurs d'horizons divers qui sont réunis par la volonté commune d'approfondir l'étude de l'aspiration religieuse comme dimension fondamentale de l'expérience humaine. L'œuvre de Jung, particulièrement après 1920, est largement nourrie d'une fascination pour les cultures et les civilisations orientales. Mais si Jung s'est d'abord et avant tout tourné vers l'Inde et l'Extrême-Orient, avec une prédilection certaine pour le yoga indien et plus tardivement pour le bouddhisme zen, il faut dire qu'il s'est assez peu engagé au cours de sa vaste entreprise d'études comparées des processus d'individuation dans l'étude du domaine arabo-musulman. Et autant les spécialistes des religions et spiritualités de l'Inde et de la Chine étaient, depuis la fondation d'Eranos, relativement nombreux, autant les spécialistes de l'islam manquaient à l'appel. Et c'est dans ce contexte que Olga Freube va faire appel à Louis Massignon en 1937. Massignon accepte et on peut considérer que ce militant du dialogue entre les cultures et les religions a vécu ces réunions placées sous le signe de la pluridisciplinarité comme une occasion de rencontrer et d'échanger avec d'autres savants et spécialistes venus d'horizons divers et à considérer Eranos comme un lieu d'inspiration unique pour son entreprise d'établissement de correspondance entre figures bibliques et coraniques, voire hindouistes ou shintoïstes. Je rappelle qu'en 1939, Olga Freube va organiser un dialogue par conférence interposée entre Jung et Massignon autour de la sourate 18 du Coran, la caverne, et la légende d'Al-Khidr. La présentation de Massignon ouvre les débats, tandis que celle de Jung, qui fut, dit-on, improvisée et dont il sortit très insatisfait, venait clore les débats. Les agendas de Massignon, qui sont à la BNF, ou plus précisément c'est d'hier, montre toutefois que Massignon quitte Ascona, et d'ailleurs il reste très peu longtemps finalement à ces réunions, mais il n'assiste pas à l'ensemble des débats et il n'assiste pas à la présentation de Jung. Mais l'ordre des conférences a été conservé pour la publication dans les annales du Cercle, et Barbara Sturnega l'a souligné déjà dans un article, hein, cet ordre est quand même pour le moins significatif. Et on voit que Massignon fait allusion à la contribution de Jung, et Jung, lui, évoque l'excellente conférence du professeur Massignon. D'ailleurs, c'est la seule fois où Jung va faire explicitement référence à l'orientalisme français. Mais moi, il me semble que les deux hommes, en fait, ne sympathisent pas tellement. Il faut vraiment attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que leur relation prenne un tour nettement plus chaleureux. Et Jung se montrait, dit-on, davantage attentif aux interventions de Massignon autour de la table ronde d'Eranos, et leurs échanges donnaient matière à des analogies entre mystique islamique et chrétienne. Je note aussi que leurs échanges n'ont pas eu de prolongement au-delà de ces réunions estivales. On ne trouve en effet aucune trace de correspondance entre les deux, et semble-t-il, Massignon n'a jamais rendu visite à Jung et réciproquement. Mais Massignon va quand même accepter, il revient souvent après-guerre, il fait souvent part de ses amitiés à Jung via Olga Freube, et puis il participe aussi à un volume qui paraît pour le 70e anniversaire de Jung, un volume hommage d'Eranos. Et je note aussi qu'il publie dans un article dans la revue Politique étrangère un paragraphe qui, dans lequel il rend aussi hommage, et là de façon très explicite, à Jung. Et il dit notamment dans cet article de 1952 combien il lui importait de rester en position de compréhension plus étroite et pour ainsi dire psychanalytique avec les pays d'islam. Et il exprime ensuite sa gratitude envers Jung ainsi. Sans être un spécialiste, j'ai réfléchi sur la psychanalyse, notamment avec Jung. Ce psychanalyste a le common touch. Il sait participer par sympathie intelligente au point de vue peuple. Il m'a guéri de cette défiance, de ce mépris hautain de l'intellectuel qui perd le contact social et qui oublie ce que sont les revendications politiques les plus mal exprimées et les plus amèrement blessantes pour notre amour propre, qui sont souvent les plus authentiques, les plus profondes, les plus fondées. Il faut dire que Massignon s'est révélé d'autant plus sensible à la recherche jungienne que lui aussi, et avant de rejoindre Eranos, avait affirmé l'existence d'invariants historiques ou d'archétypes. Hein, déjà, ses réflexions sur la trajectoire d'Al-Halaj l'avaient conduit à réfléchir sur l'existence de schèmes communs entre l'islam et le christianisme. Et puis déjà, dans les années 20, hein, dans son texte sur le folklore, sur les mystiques musulmans, hein, il avait... émis l'hypothèse comme la possibilité d'un substrat commun dépassant les individus, transmissible de génération en génération, on pourrait dire en d'autres termes, d'une forme d'inconscient collectif. Jung se retire au début des années 50, il cesse de participer aux réunions d'Eranos. Massignon, lui, accepte de revenir une dernière fois en 55, et puis il va faire un coup d'éclat, puisqu'il va prendre... Va se lancer dans une diatribe, une tribune en faveur de l'indépendance de l'Algérie, ce qui sera peu apprécié. Et je reviens sur cet épisode et plus en détail et plus largement sur l'apport de Massignon à Eranos dans un article à paraître dans Studi e Materiali di Storia delle Religioni, à paraître prochainement. J'en viens à Corbin. On peut se dire que Corbin entend certainement parler de psychanalyse au début des années 20. Il y a une mode du freudisme qui laisse des traces assez profondes dans la vie intellectuelle, artistique, littéraire française. Mais, je remercie Stéphane Guimper. Stéphane Guimper a repéré dans les archives Corbin aussi des cahiers qui attestent de sa présence au cours de Georges Dumas à Sainte-Anne, ce qui montre que Corbin, dans les années 20 aussi, s'intéressait aussi à la psychiatrie et a suivi même assidûment en fait, ses leçons. Il rencontre également le jeune Lacan au séminaire de Cogève, mais j'en sais pas plus que cela. Il lit aussi sans doute Karl Jaspers, dont il fréquente un temps aussi l'un de ses disciples en France, le psychiatre allemand exilé à Paris en raison de ses origines juives, Hans Palnau. Mais c'est probablement grâce à Louis Massignon qu'il rentre en contact avec la psychologie analytique et qu'il aussi commence à s'intéresser aux recherches qui sont menées au sein du cercle Eranos. Mais on peut néanmoins se dire qu'il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale et son retour de Turquie pour qu'il s'y plonge véritablement. Donc, il y a vraisemblablement une recommandation de Massignon. Et en tout cas, Corbin sollicite Olga Freube pour venir participer aux travaux du cercle. Il est contraint à deux reprises d'annuler sa venue. Et donc, ce n'est donc qu'à partir de 1946, 49, la prise de contact date de 46, mais en fait, il ne vient à partir de 49, que Corbin se rend à Ascona et qu'il publie donc ses premières contributions. Et il le dit dans ses premières contributions, hein, qu'il avait, ses écrits d'ailleurs portent, là on voit la marque d'une lecture approfondie des travaux de Jung, et qu'il a goûté en particulier, je cite, les résultats si féconds, hein, des travaux de Jung sur la chimie. Et à mon sens, c'est en effet, surtout après avoir lu Le secret de la fleur d'or, le commentaire de Jung sur le secret de la fleur d'or, que Corbin a dit, là, dans sa correspondance avec Olga Freube, s'intéressait beaucoup plus qu'il ne l'avait fait jusqu'ici à la littérature alchimique arabe ou persane. Je remercie Daniel Proulx aussi de m'avoir indiqué cet élément de contexte. Il venait aussi à ce moment-là de classer les papiers de Paul Krauss, qui avait ébauché une étude des rapports entre l'alchimie et la science arabe, et qui avait récupéré dans ce fond plusieurs manuscrits dits hermétiques. Et Corbin, là, reprend à son compte l'intuition, je cite, profondément juste d'un monde de corps subtil. Et il en viendra à considérer que ce monde avait été défini et situé avec rigueur par les théosophes traditionnels de l'islam, le monde médian où les esprits se corporalisent, où les corps se spiritualisent. Autrement dit, le monde douce imaginalis. Et Corbin va aspirer dès lors à montrer que la chimie était une science ésotérique musulmane à part entière, si ce n'est la science ésotérique par excellence. Donc, il faut dire aussi qu'il est déjà nourri de Rudolf Otto, je crois qu'ils se sont rencontrés. Avant même de se rendre à Ascona, il écrit à Olga Freube, et là, ce compte des lettres, quand même, sont assez imprégnés d'émotions. Hein. Il y a, je le sens, trop de points communs entre les recherches que je poursuis et celles de la famille d'Eranos pour que je ne désire pas les lui communiquer. D'autre part, une participation active scellera vraiment mon affiliation et ce me sera au retour en Orient un grand réconfort pour le travail. Il va nouer une amitié profonde, sincère avec Olga Freube, avec qui il va entretenir une correspondance régulière. Et puis, au fil des ans, il va s'affirmer comme un des piliers des colloques. C'est connu, hein, il va y participer jusqu'en 1976. Et puis, va se compter parmi ceux pour qui le cercle a permis de dominer leur champ, hein, de spécialité et de gagner, je cite, une liberté spirituelle intégrale, étrangère à toute orthodoxie ecclésiastique, académique ou universitaire. Et puis, l'ensemble de l'œuvre de Corbin portera la marque d'Eranos, hein, puisque nombre de ses textes ont été élaborés en vue d'être présentés là-bas, avant d'être revus et compilés sous forme de recueil. Apprenant que Jung ne pourra venir en 1949, il va solliciter un entretien via Olga Freube, et c'est chose faite, il se rend donc à Zurich, à Küsnacht, chez Jung, et puis il va rendre compte de ce premier entretien en disant « Nous avons bavardé ensemble au milieu de ses livres et de ses manuscrits pendant près de 3 heures. L'entendre lui-même commenter certaines images alchimiques ou certains textes de Pico della Mirandola était certes le plus beau don qu'il pouvait me faire en ce premier contact. Ce fut si cordial, si communicatif et plein de promesses que ces quelques heures ont achevé de donner tout leur sens aux merveilleuses journées d'Eranos. » Et Jung donc lui dédicace à cette occasion un exemplaire de Psychologie des Robert Dragon, psychologie du transfert. Et on voit d'ailleurs que Corbin a ajouté la date exacte sur la dédicace. Et une partie de la bibliothèque d'Henri Corbin a été déposée à la médiathèque de la Société de Psychologie Analytique en France, et donc notamment les exemplaires que Jung lui avait dédicacés de ses ouvrages. L'année suivante, il participe à Eranos, et puis il est invité à apporter une contribution à un volume spécial du Cercle pour le 75e anniversaire de Jung. Et puis il dira aussi combien il avait été heureux de pouvoir à nouveau causer avec lui, et peu après il va aussi dire à Olga Freube combien en fait il s'est délecté du volume Ion que vient de publier Jung, en disant: il est émouvant de voir combien ces dernières années chaque volume de lui apporte une précision grandissante sur le thème qui s'impose de plus en plus à lui et à nous. Peut-être si dans une génération ou deux on fait encore une théologie qui ait du sens, qui soit créatrice de nouveau et non pas une dogmatique rabâchante, l'influence de notre grand ami y aura une large part. Mais ça, c'est assez connu, mais c'est vraiment avec Antwort auf Job, réponse à Job, hein, que leur véritable rencontre, leur amitié va se sceller. Hein, ce livre qui est une forme de commentaire libre du livre de Job et de plusieurs autres textes bibliques, vise pour Jung à dessiner les contours de ce qu'il considérait comme une psychologie de l'archétype de Dieu. Et c'est une exégèse lui-même qu'il considérait comme vraiment personnelle et qui qualifia d'ailleurs de barbare, infantile et dépourvu de scientificité. Mais l'ouvrage va marquer les participants d'Eranos, puisqu'il sera au cœur de toutes les conversations dans le cercle. Et Corbin, lui, va être particulièrement frappé, touché dans sa profonde intimité par la substance de l'ouvrage. Et il va lui consacrer plus qu'un compte-rendu, un long article auquel Jung allait répondre par un enthousiasme, au fond, assez inhabituel. Ce texte est connu, hein, La Sophia éternelle. Corbin l'a conçu comme une interprétation loyale, hein, dit-il, de l'ouvrage, et qu'il présente comme l'exégèse d'une âme, de son secret le plus personnel, en se centrant sur la figure de la sagesse divine qui intercède pour les hommes auprès de Dieu. Mais la correspondance de Corbin avec Mircea Eliade vient confirmer alors déjà vient montrer que ce texte en fait a été écrit à la suggestion d'Eliade, mais il confirme aussi qu'il a été écrit aussi avec une portée personnelle forte hein, de Corbin. Et il écrit à Eliade. Il n'y a pas seulement Jung là-dedans. Il occupe à vrai dire tout le centre. Je pense qu'il s'y reconnaîtra. En tout cas, il y a le fruit le plus clair que j'ai tiré de son œuvre admirable, et je ne lui ménage pas ma sympathie. Je crois qu'en français, on ne l'a pas encore dit beaucoup. Massignon lui a quand même rendu hommage, hein, je tiens à le rappeler. Mais il y a aussi, entre les lignes, un peu de toute ma vie là-dedans. Alors l'ouvrage est lu comme une extraordinaire phénoménologie de la religion sophianique, et Corbin va dire qu'il sonna comme un étrange rappel des thèmes religieux qu'il y a une vingtaine d'années nourrissaient leur substance quelques jeunes philosophes théologiens en quête d'un nouvel horizon qui fût vraiment le leur. Corbin se réfère ensuite à Kierkegaard, mais aussi à Serge Bulgakov, héros de la Sophia et de la pensée sophianique, qui redécouvrait les secrets d'une tradition pour le moins négligée. Mais au-delà de ce rappel, de ce qu'il appelle, lui, une mise en relation symphonique entre les sociologies de Bulgakov et de Jung, réponse à Job, nous dit Corbin, lui aurait fait comprendre la réponse qu'il rapportait en lui-même de l'Iran, à savoir le chemin vers l'éternel Sophia. Et il concluait que Kargusav Jung en soit remercié. Grâce à lui, la Sophia se faisait, au fond, œcuménique. Un pont se dressait entre l'Orient et l'Occident, rendant désormais possible un dialogue entre mystiques, chiites et pensées chrétiennes orthodoxes. Et alors, c'est connu, hein, Jung va lire la Sophia éternelle et va être vraiment frappé. Et c'est une lettre qui est aussi là, je trouve, vraiment cherchée sur le plan émotionnel. Et dit notamment, c'était pour moi une joie extraordinaire, une expérience pas seulement des plus rares, mais plutôt unique, d'être compris complètement. J'ai reçu des centaines de critiques, mais il n'y en a pas une qui s'approche, même de loin, à votre compréhension aussi lucide que pénétrante. Votre intuition est étonnante. En fait, Jung a été particulièrement surpris que Corbin ait pressenti la prégnance hein, de la pensée de Friedrich Schleiermacher dans sa formation, alors qu'il n'en avait jamais fait publiquement état. On peut se demander aussi s'il n'a pas été étonné qu'un Français se soit révélé assez perspicace quant à son œuvre, alors même qu'il considérait qu'il était particulièrement mal compris et mal reçu en France. Mais sa réaction dit du moins que Corbin avait visé juste, et la lettre est moins connue, c'est juste un extrait, mais Corbin va lui écrire en retour pour lui dire qu'il avait été profondément ému, si profondément même que peut-être j'étais encore davantage touché par elle, donc sa lettre, que vous ne l'avez été vous-même par mon petit essai sur la Sophia éternelle. C'est une grande rencontre qui s'est produite entre nous, nos rencontres antérieures n'en avaient été que le prélude. Merci de tout cœur. C'est ici qu'il faut que j'ajoute que Corbin aussi s'est montré vraiment comme un des lecteurs les plus pénétrants de Jung en France à cette époque, mais aussi de sa réception. Il n'y avait pas eu tellement d'études à ce sujet. Il y en avait une d'un de ses traducteurs, Yves Lelay. Mais par ces simples remarques, moi, je considère vraiment que Corbin a visé vraiment juste en insistant sur le fait que, finalement, il ne le dit pas comme ça, mais on avait fait aussi une lecture très freudo-centrée de Jung en s'en tenant uniquement aussi à la question de l'inconscient collectif, matière sur laquelle Jung a commencé à avancer au moment de sa rupture avec Freud. Et que, au fond, les critiques et même les lecteurs de Jung passaient aux côtés ce que je considère comme la clé de l'œuvre de Jung, qui est la question de l'individuation. Et il va souligner cela, notamment dans son. Corbin va souligner cela, notamment dans son post-scriptum. Alors, la Sophia éternelle hein, fut le point de départ de longs entretiens amicaux sur tous les points soulevés à propos du livre. Hein, et il écrit ça à Olga Freud. Une nouvelle rencontre est organisée en 1953, et là, même Jung lui ouvre les portes de sa résidence privée à Bollingen. et ils poursuivent leur dialogue sur la sociologie de Bulgakov, sur Schleiermacher. Et puis, très enthousiaste, hein, vraiment, ces lettres sont chargées sur le plan émotionnel. Il écrit à Froebel, c'est extraordinaire. Après mon essai sur la Sophia, le contact était définitivement établi entre nous et l'entretien était merveilleusement direct. Et alors, sachant que Corbin maîtrisait très bien l'allemand, qu'il était un traducteur même expérimenté, Roland Cahen, à qui Jung avait confié la traduction de ses œuvres, va lui proposer de traduire Antwort auf Job. Corbin refuse, mais il va signer une postface qui a agrémenté la lettre de Jung, dans laquelle il va insister notamment sur les aspects phénoménologiques de la psychologie de Jung, dont la tâche serait, dit-il, d'analyser les conditions qui mettent l'âme en présence de la figure de la Sophia. Et celle-ci semble en effet à même de guider, pour lui, une phénoménologie religieuse qui accepte comme postulat la réalité de son objet, avec tout ce que cela implique. Mais une phénoménologie, précise-t-il, différente de la phénoménologie de la conscience historique en vigueur depuis Hegel, par le fait qu'elle ne cesse de commencer avec la préhistoire de l'âme, parce que cette préhistoire n'est point enclose dans le passé, ni close et dépassée avec lui, mais toujours imminente, toujours là, au commencement. C'est pourquoi son schéma diffère du plan classique de l'histoire du salut, tel qu'il s'est maintenu dans toutes les dogmatiques chrétiennes traditionnelles. Force est de constater qu'il n'y a pas eu non plus d'échanges. Leurs échanges ne sont pas tellement prolongés sur le plan épistolaire. Mais je signalais donc les quelques ouvrages dédicacés. On trouve notamment celui-là, donc un exemplaire de Missum Conjunctionis, avec cette dédicace et l'extrait donc d'un traité alchimique de Gerhard Dorn, dit aux efficacités admirables de cette fontaine qui, de deux, fait un seul et fait la paix entre les ennemis. Corbin va contribuer à des hommages, et notamment radiophoniques. Hein, il sera finalement presque toujours présent lorsqu'il s'agira de promouvoir aussi Jung en France. Et puis, il y aura une dernière visite à Küsnacht. Et on trouve là aussi des notes dans les archives Corbin où il dit qu'il l'avait interrogé sur la manière dont il comprenait l'expérience musicale et ses vertus thérapeutiques spirituelles. Hein, notamment, ils ont travaillé là-dessus, parlé de ça. Je signale aussi que converser avec Corbin et dialoguer avec Corbin n'était pas facile, hein, du fait même de son handicap. Et on a là le témoignage quand même de Mircea Eliade qui s'ouvre aussi de ses difficultés à dialoguer avec Henri Corbin du fait de son handicap. Et on peut imaginer aussi que ça pouvait perturber également leur relation. Hein, Eliade qui dit c'est, la conversation avec Henri est passionnante, mais pour moi fatigante, car je me donne tout le mal pour parler très fort, et après 2 heures, je suis épuisé. D'autre part, lorsque nous serons dans nos chambres, j'entendrai Céla qui, elle aussi, parle fort, car en été, nos portes sur le balcon resteront ouvertes. Je vous rougis de vous en communiquer des détails tellement égoïstes, mais je voulais que vous sachiez l'origine de mes hésitations. Après 9 mois de solitude iranienne, Henri Corbin sent un besoin impérieux de communication et de dialogue, et je comprends très bien. Seulement, comme il ne porte presque jamais son appareil, au plaisir de la conversation s'ajoute la fatigue physique, et après une semaine, cette fatigue devient terrible. Mais d'autre part, nous les aimons beaucoup et j'espère qu'on trouve un système pour éviter de très longues conversations sans appareil. J'en terminerai par là. Corbin a quand même aussi beaucoup insisté à la fin de sa vie aussi pour dire qu'il n'était pas psychologue. Et au fond, il a pris soin de se démarquer aussi de la psychologie analytique. Et ce sera notamment à l'occasion du post-scriptum. Il va le dire, hein, j'étais métaphysicien, non pas un psychologue. Jung était un psychologue et non un métaphysicien, quoi qu'il ait souvent côtoyé la métaphysique. Et puis il dira aussi, moi-même je fus ami avec Jung, je ne fus jamais un jungien, Je le précise car pour moi, lecteur superficiel ou naïf, il suffit que vous vous référiez plusieurs fois à un auteur pour qu'il fasse de vous un de ses adeptes. Et encore, je viens d'insister sur le cas et l'œuvre considérable de Jung parce que la sympathie qu'il eut entre nous n'est pas un mystère, mais aussi parce que je tiens à écarter toute ambiguïté qui ferait de moi le psychologue que je ne suis pas ou me ferait soupçonner d'un psychologisme que j'ai toujours combattu. Peut-être qu'on pourrait là peut-être penser un peu à Henri Guénon, même si Corbin le tenait à distance, cette question sur cette question du psychologisme. Tout ce que le psychologue énonce sur l'imago prend pour le métaphysicien un sens métaphysique, tout ce que celui-ci énonce est interprété par le psychologue en termes de psychologie, d'où tous les malentendus possibles. C'est pourquoi je disais ci-dessus qu'après s'être informé l'un l'autre, il faut accepter la séparation inévitable au moment où il le faut. Donc, quand on regarde les écrits quand on analyse les écrits de Corbin, on voit que les mentions explicites à Jung sont loin de saturer ses écrits, bien évidemment, même s'il y a des emprunts assez fréquents à sa terminologie, qu'il a pu s'inspirer aussi de certaines définitions, notamment sur le plan du symbole. Et qu'il a fait sienne certaines de ses expressions comme imagination active, imagination créatrice. Mais Corbin se démarque aussi, je crois que là c'est important, parce qu'il va proposer un véritable écart théorique, ce qui ne sera pas beaucoup fait par ailleurs en France, en proposant de se différencier, en tout cas, de se démarquer quant à la notion d'imagination de Jung, d'imaginaire, et lui va proposer plutôt celui d'imaginal, aux réalités vivantes de l'âme. Il va parler de mundus imaginalis ou d'imaginal, avec lequel il va désigner le monde des formes imaginales, lieu des épiphanies de l'âme et des individuations, un monde qui n'est plus le monde empirique de la perception sensible, tout en n'étant pas encore le monde de l'intuition intellective des purs intelligibles. Je signale aussi voilà, sa volonté de souligner aussi les carences métaphysiques, finalement, des psychologues. Je me réfère encore au post-scriptum, en disant « Malheureusement, quelle que soit la volonté restauratrice de l'âme et du monde de l'âme, il manque encore au psychologue occidental de disposer de cette assise, de cet encadrement métaphysique qui assure ontologiquement la fonction de ce monde médiateur et qui préserve l'imaginal des dérèglements et des divagations de l'imaginaire, de l'hallucination et de la folie. Et c'est en raison de cela que j'ai dû différencier radicalement l'imaginal et l'imaginaire. » Mais Corbin va trouver une oreille attentive auprès de certains disciples de Jung, et je pense notamment à l'américain James Silman. Mais Stella Corbin, dans une lettre, précise que Henri Corbin avait conseillé à Hillman de dire plutôt imaginal psychologique, car l'imaginal en psychologie n'est pas du tout le mundus imaginalis, qui lui est une ontologie, une doctrine de la connaissance, une théorie de l'imagination créatrice, mais n'est pas du tout une représentation de la réalité psychique, car l'imaginal n'est pas le produit de l'âme. Mais c'est vraiment après la mort de Jung, et dans cet essai, L'homme de lumière, dans le soufisme iranien, qui va encore plus, à mon sens aussi, marquer une distance, puisqu'elle comporte, l'ouvrage comporte une critique assez vigoureuse à l'égard de la conception de l'ombre, de la coincidentia oppositorum et de la totalité. Il écrit en effet, notamment sur la question de conciliation, et il y a une critique aussi de cette quaternité, éprouver une difficulté extrême, je passe un peu vite, mais éprouver une difficulté extrême devant certaines interprétations de la coincidentia oppositorum, qui semblent confondre sous la même notion d'opposita les complémentaires et les contradictoires. Déplorer que le christianisme ait mis au centre une figure de bonté et de lumière et ait négligé tout le côté obscur de l'âme, c'est une appréciation qui vaudrait non moins à l'égard du zoroastrisme. Mais comment la réintégration consisterait-elle à mettre de connivence, à totaliser Christ et Satan, Hormazd et Ahriman? Semblable proposition mettrait le fait que sous le règne même d'une figure de lumière, les forces sataniques restent à l'œuvre, celles-là qui, par exemple, tentent d'empêcher Hermès de s'arracher aux profondeurs du puits et de monter jusqu'au créneau du trône. Et c'est devant elles, justement, qu'il convient d'affirmer que le Christ et Satan ne sont pas en rapport de complémentarité, mais en rapport de contradiction. On peut intégrer des complémentaires, non pas des contradictoires. Et donc, à ses yeux, Jung confondrait complémentaire et contradictoire. Et autant il avait été sensible à l'idée que le dogme de l'Assomption de Marie ait entraîné un accroissement de la triade masculine au moyen d'un quatrième terme de nature féminine, autant il refusait que le diable, exclu et même annulé par la privation boni, prenne la place de ce quatrième perdu. Et je vais conclure pour dire que la psychologie analytique a pu constituer pour Corbin un auxiliaire de grande importance pour dépasser l'historicisme classique, rénover l'histoire des religions, édifier une science de l'âme, en d'autres termes, une arme pour livrer ce combat dont il parle pour l'âme du monde, en tout cas ce combat auquel il appela souvent de ses voeux. Mais cet auxiliaire serait au fond insuffisant, se révélerait insuffisant, voire impropre. Il le dit, quand bien même la psychologie jungienne peut fort opportunément préparer le terrain du combat, l'issue victorieuse de ce combat ne saurait en définitive dépendre que d'autres armes que celles de la psychologie. Celle-ci étant entendue, au fond, dans une compréhension réductionniste de l'homme. Il faut dire que les disciples directs d'Henri Corbin, en tout cas une grande partie, ont eu tendance à rompre aussi le lien que Corbin avait pu nouer avec Jung et la psychologie analytique. Et au fond, vous l'avez compris, mon propos n'était pas de renouer ce lien, mais voilà, de vous présenter, c'est de faire revivre dans sa complexité, dans leur complexité, les rapports que Jung et Corbin ont pu entretenir. Voilà, je vous remercie.